Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, annuncio vobis gaudium magno, une grande joie, c'est l'annonce de ce soir. Cette annonce, elle est double en quelque sorte, elle est d'un double mouvement. C'est plutôt une annonce unique à double mouvement. Il y a d'abord le Christ qui vient jusque nous pour que nous puissions ensuite aller jusqu'à lui. Ce sont donc les deux points de mon plan. Tout d'abord, le Christ vient et c'est notre salut. Il vient dans l'histoire, vous l'avez entendu, il vient au sommet de l'histoire, il vient dans le temps et il vient au bon moment. Il a été préparé longuement, annoncé par les prophètes, une préparation qui dure depuis la chute jusqu'en ce jour de relèvement maximum. Le sommet de l'histoire est atteint avec l'incarnation, nous le savons ici. Juste derrière cet autel, il y a un peu dans la pénombre l'Arche d'Alliance qui a préparé cette annonce, qui maintenant s'éteint pour laisser resplendir le Christ, la nouvelle Alliance. Cette naissance est presque triple, et c'est pourquoi nous la louons triplement. Il naît dans la Vierge Marie, mais pour continuer de nous être donné, et la première preuve, c'est les bergers ce soir, qui commencent déjà de vivre de cette annonce, et ensuite ce seront tous les saints de tous les siècles qui vivront la venue du Christ. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, cette naissance du Christ n'est pas qu'une annonce mémorielle, et nous ne sommes pas là que pour nous souvenir, ce n'est que le début de la venue du Christ, et nous avons à nous souvenir, bien entendu, comme le socle sur lequel nous nous appuyons pour contempler, vivre de ce Christ parmi nous, vivre du Christ jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi donc est-il venu? Nous le savons, nous l'avons entendu, c'est la lumière des nations. C'est pourquoi nous célébrons en plein hiver et en plein minuit. Vous trouverez toujours des arguties pour savoir si le Seigneur est bien né le 25 janvier ou pas. On s'en fiche complètement, mes bien chers frères, car de toute façon, quand il est né, le calendrier grégorien n'existait pas. La vraie raison pour laquelle nous fêtons le Seigneur au plein milieu de l'hiver, au plein milieu de la nuit, au plein milieu des ténèbres, c'est qu'il est la lumière du monde, c'est qu'il est celui qui se lève, le soleil invaincu, et je sais bien qu'il existait une fête païenne qui s'appelait le Sol Invictus, car même les païens peuvent percevoir quelque chose de la vérité de Dieu. Nous ne sommes pas des exclusivistes. Nous sommes bien heureux de savoir que les païens avaient remarqué qu'au solstice d'hiver, la vie recommençait. Nous sommes heureux de savoir que les païens avaient remarqué que le sapin renaissait en plein hiver et était vert. Voilà pourquoi les chrétiens, qui n'ont peur de rien, car tout ce qui est humain est nôtre, tout ce qui est de cette existence est nôtre. Nous ne sommes pas faits pour nous enfermer dans nos sacristies, mais pour annoncer au monde que le Christ, ce Dieu qui fait renaître, c'est lui qui vient au plein milieu de la nuit, c'est lui qui est notre lumière, c'est lui ce Sol Invictus, c'est lui que nous fêtons maintenant. Une dernière question sur la venue du Christ, c'est pourquoi finalement est-il venu ? Car il est beau de contempler le Seigneur et de se réjouir, mais il nous faut nous demander quel est le motif. Peut-être le savez-vous, au Moyen-Âge, une question agitait tous les théologiens et même beaucoup de chrétiens. Car à l'époque, il n'y avait pas de télévision et pas d'Internet, alors on était obligé de réfléchir et de parler entre soi. Alors, la question était « Uti homo non peccasset, ubi Deus et incarnasset ». Vous avez compris, mais je le traduis pour le principe. Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait incarné? Vous allez me dire, mais pourquoi cette question? Puisque de toute façon, l'homme a péché, et de toute façon, Dieu s'est incarné. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir le motif. Et saint Thomas d'Aquin, au contraire de saint Bonaventure, a opiné que non. C'est-à-dire que le vrai motif de la venue du Seigneur, c'est le péché. C'est une extraordinaire nouvelle. C'est une nouvelle qui nous met dans une joie incommensurable. Notre péché ne nous séparera jamais du Christ, car c'est le motif pour lequel il est venu nous sauver. si vous aviez peur, en péchant, en ne commettant pas le bien, en n'arrivant pas à être toujours aussi bon que vous l'espéreriez, si vous aviez peur, soyez consolés, soyez rassurés, c'est en raison de notre péché, c'est en raison du péché originel et du péché de tous les hommes de tous les temps que le Seigneur a voulu venir. Oui, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il est le Messie, notre Sauveur. Et de quoi nous sauve-t-il ? De la mort éternelle. Oui, le péché, c'est l'absence du bien, c'est l'absence de vie, c'est l'absence de Dieu. Alors notre péché nous conduit tout naturellement au néant, à la mort, au trou noir. Le Seigneur est venu pour que, à travers la croix, de la crèche au crucifiement, c'est le même mystère, à travers la croix, en venant parmi nous, il nous assure, parce qu'il a voulu vivre cette vie, que malgré notre péché, malgré nos croix, malgré les conséquences du péché, le mal, les ennuis, la maladie et même la mort, nous vivrons. Voilà la première réjouissance de cette nuit, le Christ qui est venu, qui vient et qui viendra et qui nous sauve. Mais alors, mes bien chers frères, il ne faut pas s'arrêter là. Cette grande joie annoncée aux bergers, annoncée en premier aux bergers, elle l'est par les anges. Il y a quelque chose d'étonnant dans cette naissance, c'est tout humain et tout divin, comme l'existence, comme celle de l'Église. Il y a quelque chose de tout humain, une femme qui va se faire recenser, le premier recensement de l'histoire qui a eu lieu presque, peut-être, pour pouvoir recenser la naissance du Christ. Une femme qui est enceinte, dans une salle commune où il y a beaucoup de monde, il faut donc trouver un endroit à l'abri. Pas forcément qu'ils furent rejetés, ne faisons pas de misérabilisme gratuit, mais dans une situation difficile, ils n'ont trouvé qu'une crèche. J'ai demandé à la messe précédente, à un enfant, pourquoi on appelait ça une crèche ? Eh bien, les enfants m'ont répondu tout naturellement, parce que c'est dans les crèches que naissent les enfants. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une crèche parce que c'est le seul endroit où ils ont pu crécher, c'est-à-dire trouver un abri. Et dans cette crèche, vraisemblablement, des animaux, puisque nous le savons, le Seigneur est couché dans une mangeoire, il s'y trouve l'âne et le bœuf. C'est très biblique, nous ne l'avons pas lu dans Saint-Luc peut-être, mais la tradition de l'Église, lisant l'Écriture de bout en bout, savait que l'âne ne connaît pas son maître et que le bœuf ne connaît pas sa maison. Voilà pourquoi l'âne et le bœuf dans la crèche représentent les nations païennes qui ne connaissent pas encore le Christ, mais qui vont venir quand même. Les premiers convoqués, vous le savez, avec les anges qui ont une connaissance infuse de Dieu et qui annoncent immédiatement aux hommes la venue du Christ, ce sont les bergers. Les bergers, c'est important, ils ont la foi, ils sont juifs, ils connaissent l'Écriture et ils savent que le Messie arrive. Ils n'ont pas de doute à la vue de ces anges qui leur annoncent la venue du Messie. Ne méprisez pas trop ces bergers, ne les prenez pas pour des moins que rien. Rappelez-vous qui a gardé les bergers au même endroit à Bethléem quelques centaines d'années plus tôt. C'est le roi David, quand il était jeune, qui gardait à Bethléem les troupeaux. Ce ne sont pas des moins que rien, ce sont les descendants d'Abraham. Ils ont la foi et ils sont gratifiés immédiatement de la vision du Christ. Ils ne doutent pas un instant. Et pourtant, le signe qu'on leur donne est des plus banals, pour ne pas dire minables. C'est jamais minable un enfant qui naît, mais c'est d'une grande banalité. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Oui, les bergers, par la foi, ont trouvé directement ce que les rois mages ont trouvé plus lentement, en réfléchissant par la raison. Les deux ailes de la connaissance que sont la foi et la raison nous portent à connaître le Christ, mais la foi d'abord. Vous qui êtes venus là ce soir, vous pouvez connaître immédiatement le Christ, ou tout du moins rapidement le Christ, car vous avez toujours une médiation, le Christ qui vient, qu'il vous ait ensuite donné de connaître dans votre intelligence. Alors, et c'est le dernier point que je voudrais soulever, il vient pour nous diviniser. Il nous a sauvés, mais ce n'est pas tout. Car si Dieu s'est fait homme, c'est pour que nous soyons faits Dieu. Le Seigneur ne va pas arrêter son dessein éternel de salut, celui qui était depuis le commencement du monde en créant l'homme, pour qu'il le connaisse, le voie et vive de lui. Le Seigneur a trouvé le moyen de se rendre proche, puisque nous ne pouvons pas nous élever jusqu'au ciel, il a trouvé le moyen, lui, de descendre jusque sur la terre. Et oui, si le Seigneur est né dans une mangeoire, si le Seigneur est né à Bethléem, ce qui signifie en hébreu « Bethel », le pain, la maison du pain, s'il est né dans la maison du pain, dans une mangeoire, pour se faire nourriture, ce n'est pas un hasard, vous le pensez bien, c'est qu'il préparait déjà, en venant dans la crèche, son crucifixion et le moyen de sa présence, qui serait le pain et le vin, dans lequel il continuerait son incarnation jusqu'à la fin du monde. Voilà, mes bien chers frères, vous savez tout ce qu'il faut savoir de la venue du Christ. Il est venu pour nous sauver. Sa venue jusqu'à la fin du monde continue de nous diviniser, de nous sanctifier, nous qui allons adorer l'enfant. Vous qui viendrez au pied de cet autel, c'est-à-dire comme au bord du ciel, recevoir le Seigneur qui descendra jusqu'à vous, soyez bien heureux déjà maintenant de vivre quelque chose de la béatitude du ciel, afin que le Seigneur finisse en vous ce qu'il a commencé de faire de vous des saints. Amen.